Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
Oh, that's music to my ears.
On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader.
Oh, yes.
Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
Well, that's excellent.
Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
You know what? I like that idea.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Tessier sur Clé de voûte. Paul fait probablement partie des 10 products français les plus expérimentés. Après ses études en France, il lance sa première boîte en 98. Dans la foulée, il relance une aventure nommée Virtual DJ qui développe un software pour les DJ utilisé par 70 millions de personnes dans le monde. En 2006, il devient directeur produit chez PayPal et s'envole à San Francisco. Il y reste 9 ans, puis devient VP Product de Symfony. En 2021, il devient CPO de Booster, puis rejoint l'équipe de Gorgias. 2 ans plus tard, il devient président de Superhuman, l'email le plus rapide du monde. Paul vient sur Clé de voûte nous livrer sa méthode step by step pour améliorer la collaboration entre Product Manager et Product Designer, avant de revenir sur les différences de pratiques produits entre la France et les US. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Alors, c'est un sujet qu'on a évoqué ensemble quand on s'est vu à Paris. Moi, je te disais qu'il y a beaucoup de PM en particulier dans l'écosystème, tu vois, qui ont un petit peu ce syndrome de se dire c'est mieux aux US, en France, on est vraiment à l'arrache, on est vraiment loin. Et moi, tu vois, en discutant avec des gens comme toi, je m'aperçois que clairement, il y a des boîtes qui font vraiment mieux, en tout cas de ce que je vois quand ils documentent. Mais je m'aperçois aussi qu'il y a une vraie volonté en France de vouloir monter en niveau, progresser et tu vois, resserrer l'écart. Et on s'était dit que sur cette partie, on parlerait un peu de ça. Toi qui as vu les deux côtés, qui voyage encore un petit peu en France par-ci par-là et qui voit ce qui se passe, c'est quoi cet écart aujourd'hui, tu vois, en 2023, entre 2024 quand l'épisode sortira, entre le produit en France et le produit aux US.
Écoute Timothée, si tu veux, en fait c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on fasse ce podcast, parce que pour moi, pour avoir vécu l'émergence de la fonction produit en France et avoir toujours regardé la Silicon Valley comme si je veux vraiment faire du produit sérieusement, il faut que j'aille là-bas. L'idée de pouvoir ramener un petit peu les meilleures pratiques à la communauté et l'écosystème français, ça a toujours été hyper important pour moi. Donc c'est un sujet qui est hyper important. En gros, si on regarde le verre à moitié vide, le début de la fonction produit, c'est en gros 1995, et ça a vraiment explosé en France en 2010-2015. Donc en gros, le verre à moitié vide, c'est genre la France est 20 ans en arrière sur les US sur ce sujet. Heureusement, l'écart se comble vraiment, vraiment, vraiment vite. J'ai l'occasion de travailler avec un nombre d'entrepreneurs et de leaders produits en Europe et en France qui me fait apprécier à quel point l'écosystème est hyper riche et porte des idées très fortes. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même des choses à noter qui sont différentes entre les deux endroits. Certaines choses dont je pense qu'il est bon de s'inspirer. Et je pense qu'il y a aussi des trucs à éviter sur lesquels l'Europe en général et la France en particulier a plutôt tendance à être plus forte. Et donc sur lesquels il faut plutôt capitaliser.
Bah, j'aime bien si que tu creuses ça. En effet, ça peut être rigolo. Qu'est-ce que tu perçois comme différence peut-être de force et de faiblesse, si on peut qualifier le mot comme ça. À nouveau, personne ne doit rien prendre mal ici. On n'essaie pas de faire du cliché. On essaie juste de se baser sur des constats que Paul a vécu dans les deux territoires, en fait, tout simplement les deux géographies, quoi.
Ouais, je pense que les choses sur lesquelles la France en particulier, les entrepreneurs français et les product leaders français ont tendance à être très très forts, c'est de vouloir construire des boîtes solides, profitables, qui répondent à des vrais besoins et qui est là pour durer. La Silicon Valley dans un mauvais jour, alors c'est pas comme ça en ce moment, mais certainement dans les années 2016 à 2020, disons en quelque sorte. La quantité de capital risque et de hype était telle que n'importe quelle idée, même la plus farfelue, pouvait être fundée. Et puis il y a un effet de caisse de résonance qui se crée. Et donc parfois tu dis mais je suis complètement débile là, je vois pas ce truc là comme étant un truc à potentiel. Qu'est-ce qui se passe? je trouve que et c'est à ce moment-là où je voyageais en fait pas mal en Europe et j'avais l'impression de retrouver ma santé mentale quand j'arrivais à Paris. Donc je pense que c'est quelque chose. Je pense que le bon sens. Si vous voyez des blog posts sur TechCrunch ou autres qui vous parlent des trucs délirants et que vous dites mais je vois pas le truc, c'est peut-être que vous avez raison.
tu perçois pas ça en France en 2021-2022? Il y a eu de la part des Français en tout cas. Je vais essayer d'être un peu le messager ici, mais il y a vraiment eu cette perception sur certaines boîtes. C'était plus simple de lever, alors toujours avec ses contraintes, je pense, par rapport aux US, mais plus simple de lever, des idées... Il n'y a pas de mauvaise idée, de toute façon, c'est compliqué de dire une idée, mais en tout cas, il y a des boîtes qui n'avaient pas de fondamentaux très clairs et très solides et qui levaient beaucoup d'argent. Il y en a eu, tu vois. Beaucoup moins, j'imagine, en termes de volume et de montant qu'aux US, hein, mais il y en a eu.
Ouais, ce que j'ai constaté, c'est qu'en général, une fois de plus, je généralise, hein, mais les fondateurs français en particulier... sont vachement bons en termes de je vais faire une vraie boîte. Donc si vous vous dites même ceux qui ont l'air d'être les plus visionnaires, ils sont vraiment plus les pieds sur terre,
plus terre à terre, ouais.
que les plus extrêmes qu'on peut voir dans la Silicon Valley. Donc je pense que c'est le premier danger. Le deuxième, et j'en reparlerai un petit peu, c'est pendant très longtemps et même après le Covid, il y a cette espèce d'obsession que tous les ingés, tout le monde dans la boîte et les ingés en particulier doivent être basés à San Francisco. Alors ça a un peu changé avec le Covid, mais pas entièrement. Et je trouve que la force des Français en général, bon évidemment les ingénieurs en France sont très très forts, mais il y a une culture d'équipes distribuées. Et d'équipes distribuées sur l'ensemble de l'Europe, qui est beaucoup plus prononcée et qui est vraiment une force parce que ça permet d'avoir des équipes qui sont construites dès le début de façon distribuée et après quand il est temps de scaler, c'est un avantage vraiment très différenciant.
C'est marrant, là tu m'apprends un truc. Je pensais que c'était plus le cas aux US, où je sais d'ailleurs post-Covid, il y avait un peu un mouvement de San Francisco vers, j'ai entendu parler du Texas, d'autres villes, je crois que c'est Houston qui revenait pas mal, je sais plus. J'ai l'impression qu'il y a eu un mouvement, et toi tu confirmes qu'aujourd'hui c'est toujours très centralisé.
Alors il y a eu un mouvement très marginal,
ouais,
disons.
C'est marginal, ok.
Si tu veux, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène d'un côté, il y a quand même des très très bonnes écoles d'ingénierie aux US qui sont basées là, et de l'autre, les plus grosses boîtes de tech du monde qui embauchent à tour de bras. Donc même si toutes ces boîtes-là ont ouvert des centres de développement à d'autres endroits, c'est pour héberger entre guillemets leur croissance. Les équipes ici, elles ne deviennent pas plus petites, elles continuent à grossir. Juste, elles ont besoin de grossir à d'autres endroits aussi. Mais le côté hyper local de la Silicon Valley reste hyper fort.
En France, il y a quand même encore cette perception, et enfin, je crois que c'est assez vrai qu'il y a beaucoup de choses concentrées à Paris quand même, tu vois, économiquement. Donc, la tech encore plus, c'est exacerbé, je pense. Et il y a eu aussi ce mouvement pendant le Covid, comme tout le monde, où les boîtes ont réussi à distribuer un peu plus, à accepter les gens en remote. Et je sais que ça a été un peu compliqué le retour aussi. Il y a beaucoup de PM qui voulaient bosser à l'étranger ou, enfin, en tout cas, loin de Paris, qui d'un coup n'ont pas plus quoi. Je l'ai vraiment senti, nous, quand on accompagnait un peu de PM avec mes activités à côté.
C'est vrai que c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je parle à beaucoup de clients, justement, dans le domaine de la collaboration dans le monde entier. Et c'est quelque chose que j'ai pu ressentir dans l'ensemble des boîtes de toutes les tailles autour du monde. Il y avait un problème de retour, un désir de retour en présentiel. Néanmoins, ce que j'ai constaté dans les startups, c'est que c'est quand même vraiment plus. On voit quand même beaucoup plus souvent des ingés basés un peu partout dans les startups françaises que dans les startups américaines.
Ok. Et alors, si on revient sur la façon de faire du produit, est-ce que toi, tu constates, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des très bons products, il y a des ingés qui sont très bons en France d'un point de vue connaissance et tout. Est-ce que tu constates un écart énorme aujourd'hui sur la façon dont les gens pensent le produit tu vois, ship, exécute, la pratique aussi en tant que telle, la collaboration dans les boîtes, la manière, le développement produit également. Est-ce que tu vois un net écart? Est-ce que tu arrives à le dire aujourd'hui? Ou est-ce que tu penses que c'est pas, c'est assez proche, quoi?
Alors, bon, ça me fait mal de le dire, mais oui, je vois un net écart que je qualifierais de deux façons. On peut en parler plus en détail si tu le souhaites. La première façon, c'est le niveau d'intégration du métier produit, c'est-à-dire les process, le comment est-ce qu'on appelle telle métrique, est-ce que j'ai lu le dernier blog post, est-ce que j'ai testé telle nouvelle idée, etc. Les product managers aux US en général sont quand même vraiment plus à la pointe. Sachant que être à la pointe, ça veut dire qu'il y a aussi quelques mauvaises idées qu'on aurait peut-être dû jeter, mais en général, les pratiques et les outils sont quand même plus maîtrisés, même pour des product managers qui commencent. Donc ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est le sens business. J'ai pas trop fait l'analyse de pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, l'observation, c'est l'impression que je m'en fais, c'est que les product managers en France ont tendance à venir plutôt d'une valence assez technique. Là où aux US, les product managers ils pensent vraiment comme le CEO du produit, et donc ils comprennent toutes les parties du business et comment telle ou telle innovation technique va contribuer à la croissance de la boîte. Mmh. Alors évidemment, ça s'apprend, et ça s'apprend vite, hein, mais c'est probablement le deuxième gap que je constate.
Tu penses que ça se développe comment, justement, pour un PM français, tu vois, qui souhaiterait, qui est au courant, parce que je pense qu'en plus, dans ce contexte, tu sais, économique un peu plus chaud, là, ouais. Il y a plein de PM qui doivent penser un peu différemment, ils doivent penser rentabilité, ils doivent penser, pour tel effort, comment je peux décupler le chiffre d'affaires de ce que je vais sortir, tu vois. Tu penses que cette notion-là de sens business, elle se développe comment?
Alors, d'abord, en s'intéressant au sujet et en comprenant que c'est important, parce que faire le plus beau produit de la Terre que personne n'utilise, ça sert à rien. L'avantage, c'est que ce soit sur des blogs et des podcasts en français ou en anglais, il y a un contenu incroyable disponible. Donc, le contenu n'est pas très compliqué, enfin, en tout cas, la théorie n'est pas très compliquée à trouver. Donc, probablement, ma recommandation, c'est un, en faire une priorité, deux, se former et s'informer sur les différents aspects. Ce qui est dur quand on lit plein de blog posts, etc., c'est de voir, OK, de toutes ces recettes, de toutes ces idées, lesquelles sont vraiment applicables dans mon business, mon produit aujourd'hui. Et donc sur cette partie-là, ma recommandation, c'est trois, déjà en parler avec d'autres product managers, pouvoir comparer un petit peu, ah mais attends, moi je fais un produit B2C, c'est différent qu'un produit B2B, ou je suis early stage, ou je suis plus mature. Juste essayer. Essayer des choses et puis itérer. On se rend compte assez vite que quelque chose marche ou marche pas, juste essayer. Finalement, ça marche souvent très bien.
Tu disais tout à l'heure que effectivement le produit en tant que tel, donc là le développement produit tech est un peu en avance encore aux États-Unis par rapport à en France, malgré toutes les qualités qu'on a, tu te dis, tu vois, de ce que tu perçois chez les PM et les ingés français. Est-ce que tu as peut-être des recos à donner aux auditeurs et auditrices de ce podcast pour s'inspirer un petit peu justement de ce qui se passe là-bas, de la façon de faire du produit, des choses qu'ils pourraient mettre en place pour progresser en fait et resserrer cet écart?
Ouais, écoute, c'est une super question, Timothée. J'en ai plein qui me viennent en tête, mais disons que je vais essayer de me limiter au top. Je pense que, un, ce que je vois le plus en France et qui me paraît un danger, c'est de penser à mon marché comme étant la France tout de suite, par opposition à penser global dès le premier jour. Donc, recommandation 1, penser global. L'avantage incroyable dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en étant basé en Europe, rien que vouloir faire un produit dans différents produits européens, ça force à réfléchir avec un niveau de complexité et de finesse que les Américains ne savent pas faire. Donc vraiment, s'appuyer là-dessus dès le début. Deux, je suis désolé d'avoir à le dire, mais c'est fondamental, venir aux US de temps en temps. Idéalement, une fois par an. Si vous pouvez pas venir trop souvent, très bien, mais tout le monde est hyper ouvert, chacun peut partager, vous pouvez rencontrer des gens dans n'importe quelle boîte, l'écosystème et la communauté est hyper riche, donc pouvez très facilement rencontrer des gens qui font des métiers semblables ou différents ou pas trop loin dans différentes boîtes et apprendre comme ça. Et c'est vraiment fondamental. Si vous êtes un fondateur ou si vous êtes early stage, évidemment, le capital est 100 fois plus accessible aussi, même si ça se développe très vite en France. Et donc, tester vos idées avec des investisseurs potentiels aux US, ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Donc, faites-le tout de suite. Ça c'est avis numéro 2. Avis numéro 3 qui me fait mal, celui-là, il me fait mal de le dire, mais j'ai quand même besoin de le dire. Travaillez en anglais dès le début, sur tous les cris. Vous allez avoir des ingés à un moment ou un autre, ou des gens à un moment ou un autre qui parlent pas français. Si vous en avez pas, vous devriez. Et donc, pour que les gens puissent onboarder sur ce qui se passe dans la boîte, même ce qui se passe quand tout le monde était français, si tout est en anglais, écrit en anglais dès le début, ça vous donne une agilité qui est beaucoup, beaucoup plus dure à rajouter après. Ça, c'est 3. Ouais, on en a parlé un petit peu, mais je vais réenfoncer le sujet. Surtout pour les product managers, développer un sens business et un sens client dès le début et aider les ingés et les designers à développer leur sens business aussi. C'est plus le rôle du produit de développer cette partie-là et cette orientation, bien sûr, mais c'est le rôle du produit d'aider les designers et les développeurs à développer leur propre sens business. Ce qui est assez fascinant aux US, c'est que tout le monde a un sens business, même les ingés. Donc, c'est assez incroyable. C'est beaucoup moins le cas culturellement en Europe en général et en France en particulier. Donc, c'est d'autant plus important pour les product managers de développer ce sens-là parce que quand les ingés, quand les designers, quand tout le monde comprend le client et le business, bah, la qualité des idées est 10 fois meilleure. Allez, je t'en donne une dernière. J'en ai déjà parlé. Prendre son propre développement en main. Surtout dans les startups un peu early stage, il se passe des milliards de trucs. C'est toujours facile de passer à l'incendie d'après qui a besoin d'être réglé. Et donc de passer zéro temps à apprendre des choses nouvelles. Et en tout cas, se développer professionnellement. Donc, toutes les semaines, prenez un petit peu de temps pour lire un blog post, tester une nouvelle idée, écouter un podcast. En en faisant un peu chaque semaine, vous allez devenir bien meilleur à votre job et à contribuer au développement de votre boîte. Donc prendre ce temps à chaque fois. Les Américains font ça avec une régularité impressionnante. Inspirez-vous de ça. Évidemment, le podcast de Timothée est une super ressource, donc continuez à l'écouter.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
Darling, this trip's an inspiration.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.